Bonjour, bienvenue chez Rêve Lucide. Vous écoutez notre podcast 20 000 lieues sous les murs.
20 000 lieues sous les
murs. Murs.
Murs.
Rêve Lucide est une association qui promeut les cultures urbaines via le street art et le graffiti, et c'est également le premier atelier galerie dédié à l'art urbain sur Amiens. Il est autogéré par les artistes Juan Spray et Quest ainsi que moi-même Ségolène. Nous mettons en valeur l'art urbain sous toutes ses formes ainsi que les artistes locaux tout en faisant découvrir différents styles et techniques variées du street art. Nous sommes situés au 18 rue des Majots en plein cœur du quartier Saint-Leu. Bonjour et bienvenue sur ce cinquième épisode de 20 milieux sous les murs. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Berthe Ewan pour parler de son exposition éponyme à la Galerie Rêve Lucide qui se déroule du 6 juin au 28 juillet 2024. Nous sommes aussi accompagnés de Virgile, stagiaire de Berthe, Nawel, en service civique à la Galerie Rêve Lucide et Corentin, stagiaire à la Galerie Rêve Lucide. Nous sommes accueillis par Jules à la briqueterie que nous remercions pour l'espace alloué. Bonjour Berthe.
Bonjour à tous.
Merci d'être présent aujourd'hui pour cette interview. On va discuter autour de ta carrière de dessinateur et de graffeur. Est-ce que tu peux, pour débuter, te présenter comme tu le souhaites, succinctement ou dans les grandes lignes, savoir comment t'en es arrivé là aujourd'hui à faire des expositions, par exemple ?
Oula, alors c'est un peu compliqué. Je m'appelle Berthe Ewan, je suis auteur de bande dessinée, ce qu'on appelle aussi un street artiste, mais moi j'aime bien plutôt la dénomination graffiti artiste. Donc voilà, j'ai commencé très jeune et puis aujourd'hui, c'est une aventure.
Pour commencer, moi je voulais parler de notre rencontre. Moi je te connaissais pas jusqu'à il y a quelques mois quand mes collègues Quest et Juan Spray m'ont parlé de toi pour pouvoir programmer l'exposition. Ils voulaient vraiment t'exposer parce que tu leur parles, en tout cas ton travail leur parle. Et ils te connaissaient déjà depuis, surtout Juan en tout cas, te connaissaient déjà depuis tes débuts, je crois, dans les années 2010, où ils se souviennent de toi dans les journaux télévisés comme étant un artiste qui a gagné un prix à Transmuraille pour la BD et ensuite ta pratique du graffiti. Je t'ai connu en tout cas par ce biais-là. Et mes collègues t'ont rencontré à la Galerie Sakura pour l'exposition Porsche Legacy, il me semble. T'as rencontré mes collègues là-bas, donc c'était assez intéressant de pouvoir aussi eux te voir, et puis moi je t'ai rencontré bien plus tard. Là, cette exposition, on l'a appelée Berthe Ewan de ton nom pour pouvoir présenter le plus de tes travaux, autant BD que peinture et graffiti. Et surtout ton personnage, qu'on voit autant dans les toiles que dans ta pratique de la BD. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément partout. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage et comment t'en es arrivé à le créer ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le graffiti dans les années 90. Fin des années 80 même, enfin j'étais gamin et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Autour de moi, il y avait énormément de graffeurs, de danseurs, de rappeurs, mais moi j'étais tout gamin et moi je regardais des dessins animés. Moi, comme je dis d'habitude, je suis de la génération Club Dorothée et donc très jeune, j'ai regardé Cabu, etc. Et j'ai commencé très tôt à faire de la BD avec un style plutôt franco-belge. Mais comme la culture hip-hop s'est élargie, eh bien, j'ai ramené ce truc, cette énergie, ce style, ces caractères dans mes dessins. Et au fur et à mesure, j'ai commencé le graffiti avec un crew qui s'appelle le 3HC.
Du coup, tu as commencé avec eux quand tu étais jeune. À quel âge à peu près ?
Je devais avoir 14-15 ans.
Ok.
J'étais plus jeune en plus.
Ouais, plus jeune. Et c'était dans quelle région du coup ?
Alors, on est en région parisienne, mais en fait, moi, j'ai commencé, j'étais dans 93, mais la plupart viennent du 95 ou du 94. Et donc, j'allais les voir, ils venaient me voir, on allait sur Paris. Et donc, très tôt, on a commencé à peindre dans les terrains vagues.
Ok.
J'étais mineur encore.
Ouais. Donc, tout début, très jeune.
Ouais,
et à ce moment-là, c'était quoi ta pratique, ta gestuelle de ta production ? Est-ce que tu copiais, t'imitais ou est-ce que j'imagine que tu croquais beaucoup ? Tu devais beaucoup dessiner pour ensuite faire...
Alors, je dessinais beaucoup, mais il y a une particularité, c'est vrai, c'est que moi, je fais des personnages. Comme je peins avec je peignais déjà à l'époque avec des personnes qui faisaient des superbes lettrages, moi, je ne m'en sentais pas du tout capable. Et du coup, comme on était un crew, chacun son truc. Certains faisaient des lettrages et puis moi, je rajoutais des personnages.
Okay.
Jusqu'à aujourd'hui.
Et du coup, aujourd'hui, tu mélanges les deux? Tu fais un peu de lettrage?
Non, je fais toujours pas de lettrage parce que, avec le temps, les copains se sont encore plus améliorés. Du coup, ça craint si je fais un lettrage, ils vont se foutre de ma gueule. Donc, je préfère plutôt y placer mes personnages. Et voilà, quoi.
Ça t'a créé une vraie identité, on va dire, on te repère surtout, on reconnaît ta patte par rapport à ton personnage.
Ah oui, en effet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que je viens de la BD, je me suis créé un avatar, je me suis créé un personnage, et j'ai repris des études de communication, et donc, en tête, j'avais donc en tête de montrer un maximum, de faire connaître ce personnage, en fait. Et donc, je le mettais dans toutes les positions. Et surtout, je l'ai créé en train de martyriser d'autres personnages connus pour que ça puisse faire parler. Et ces personnages, c'était les Schtroumpfs.
Mais tu nous en parlais la dernière fois quand on est venu à ton atelier. Effectivement, la figure des Schtroumpfs, c'est quelque chose que tu as réemployé, exploité, parce que c'était connu et surtout que ça parlait à plusieurs générations. Et que du coup, c'est comme ça que tu touches le plus de personnes. En tout cas, si tout le monde reconnaît l'image du Schtroumpf, ils vont réussir à associer ton personnage à ce motif-là.
En fait, le truc, c'est que j'ai arrêté le graffiti pendant une vingtaine d'années. Et quand j'ai repris le graffiti, il y avait déjà d'autres personnes qui peignaient, mais magnifiquement. Des personnes qui faisaient du street art, du graffiti, ce qu'on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, il y avait des personnes qui parfois sortaient d'écoles d'art, faisaient des trucs géniaux. Et moi, je reviens 20 ans après avec un style vieillot, avec pas de technique du tout. Et donc, il a fallu me démarquer. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais ramener quelque chose qui parle à tout le monde, mais qui aura un style, qui aura mon empreinte. Et du coup, j'ai emprunté les Schtroumpfs, sauf que je les ai faits en style b-boy, avec des grosses chaînes en or, des grosses baskets, avec des allures, etc., etc.
Ok. Et donc, du coup, tu dis que tu as arrêté la pratique pendant 20 ans, la pratique du graffiti, en tout cas, pas du dessin. Ou alors, si tu l'as arrêté, c'était pas pendant autant de temps. Est-ce que quand tu graffais pas ou dessinais pas, est-ce que tu, je sais pas, t'as pu ressentir un manque ou il y a quelque chose qui t'a attiré? Est-ce que c'est des amis qui t'ont aidé à y retourner ou c'est quoi, comment t'y es retourné? Parce que le dessin t'a repris, mais le graff, c'était différent.
Alors en fait, c'est vrai que j'ai arrêté pendant 20 ans, mais il y aura pas de langue de bois ici. Ce que je vais expliquer, c'est que là où j'ai grandi, en Seine-Saint-Denis, quand j'étais plus jeune, j'étais à la recherche d'une chose, c'était que j'étais à la recherche d'argent. Et du coup, malheureusement, comme beaucoup de jeunes issus de... Enfin, comme trop de jeunes plutôt, issus des quartiers, eh bien, j'ai fait les mauvais choix. Et donc, je me suis mis à braquer des banques. Et donc, quand on fait des bêtises, on se retrouve en prison. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai quand même été condamné à 10 ans de prison. J'y suis resté 5 ans. Et pendant ces 5 années, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. Et surtout, j'avais que ça à faire que de dessiner. Et c'est de là que j'ai sorti, que j'ai écrit plutôt, une BD, parce que je me sentais un peu comme un journaliste en immersion. J'étais enfermé, je vivais des choses, je voyais des choses, et surtout j'avais un humour un peu satirique, et je me suis dit, mais d'autres personnes, d'autres artistes sont passés par la casse-prison, et ils sont sortis avec un album de rap, ou avec en ayant écrit un roman, et bien moi, je dessine et j'écris, et bien je vais ressortir avec une BD. C'est ce que j'ai fait.
La première BD, c'était L'Évasion, qui est sortie en 2011, si je ne me trompe pas. Et tu as sorti le tome 2 en 2015. L'Évasion, vive la liberté.
Tout à fait.
Ici, on aime les jeux de mots. J'ai oublié de dire au tout début, mais quand j'ai commencé à faire mes recherches sur toi, j'ai visionné ton documentaire, Le Colibri. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça très beau et pertinent dans le monde dans lequel on vit.
Alors, c'est un court-métrage qui a été écrit par deux copains graffeurs et qui connaissent mon histoire et qui ont voulu raconter en fait mon univers et puis d'où je venais et ce que je faisais, quoi, tout simplement.
Donc l'image du colibri, c'est celle de l'oiseau qui éteint l'incendie avec ses propres moyens. Et pourquoi avoir choisi du coup cette image par rapport à ton vécu ou ton expérience?
Parce que pour moi, c'est important. Déjà, c'est un conte, enfin, c'est quelque chose, c'est une histoire que j'ai entendue de la bouche de Pierre Rabhi, le philosophe, qui racontait cette histoire du colibri, effectivement, qui éteignait le feu d'une forêt en allant chercher de l'eau et qui crachait dans le feu. Et donc, avec des tout petits moyens, si tous les autres animaux faisaient la même chose, eh ben, ils réussiraient à éteindre le feu, en fait. Et puis, j'ai raconté donc cette histoire, et puis on est parti sur un documentaire qui parle du colibri.
Est-ce que, du coup, il y a d'autres formes d'art comme ça, la BD et le graphe, comme peut-être la vidéo ou la chanson, auxquelles tu es associé ou que tu apprécies, que tu aimerais bien développer?
Alors oui, en fait, je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle les Lascars. Donc, on a pas mal de projets, que ce soit en dessin animé ou en film. J'ai signé dernièrement avec une agence qui s'appelle Starting Block, qui est l'agence de Booba, entre autres. Et donc, on a plein de projets, des projets secrets, comme par exemple un film, mais je n'ai rien dit.
Le film, c'est sur la thématique, j'imagine que c'est secret aussi.
Là, j'en ai trop dit déjà.
Ouais. Effectivement, du coup, après la prison, t'es ressorti pour sortir l'album. Et comment t'en es revenu au graffiti? Est-ce que t'es retourné avec ceux auxquels tu graffais quand t'avais 13 ans? Ou est-ce que les relations ont changé? T'as trouvé d'autres artistes avec qui graffer? Est-ce que le milieu avant la casse-prison et après a changé? Ou est-ce que t'as pu te réalimenter aussi du progrès qu'ils ont fait ou...
Alors, ce qui se passe, c'est que je sors de prison en ayant un livre dans les mains, livre qui sort instantanément, en fait, à peine je sors, donc il est édité et il marche très bien. Le truc, c'est que j'expose dans les beaux quartiers de Paris, du côté du rue du Faubourg Saint-Honoré, derrière les Champs-Élysées. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a les médias qui s'y mêlent, qui voient ce que je fais, et puis je me rends compte que j'ai envie de reprendre mes activités artistiques, que je dessine aujourd'hui, je fais de la BD, mais que je sais aussi peindre sur les murs, je sais peindre avec des bombes de peinture, et je vois que le milieu a énormément évolué, et j'ai des copains qui quand j'étais plus jeune, peignait avec moi sur des murs, me disent « Berthe, il faut absolument que tu fasses des toiles. Hier, on peignait dans des terrains vagues. Aujourd'hui, on est dans des galeries, dans des musées. Il se passe plein de choses. » Alors moi, ça ne m'intéressait pas parce que je ne me sentais pas capable. Mais un jour, on me pose la question, un grand commissaire-priseur me propose de participer à une vente aux enchères. Et on me demande si ça m'intéresse de faire un tableau, si j'ai déjà fait des tableaux. Alors j'en avais jamais fait, mais évidemment, je dis « mais bien sûr ». Et donc, il me dit « ok, génial, ben, il m'en faut un pour la semaine prochaine ». Alors, grosse panique, parce que j'avais jamais fait de tableau. Et donc, il a fallu que je m'y colle, quoi. Et j'ai fait un tableau qui s'est vendu chez Drouot.
Et du coup, en quelque sorte, on peut dire que c'est la BD, tes planches sont rentrées en galerie avec la sortie du livre. Et du coup, ça fait par là aussi que t'as amené les toiles en galerie.
Carrément, c'est d'abord par la BD effectivement, et par la suite avec des toiles. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ces toiles, je me suis rendu compte en fait à quel point plutôt c'était génial de pouvoir peindre sur des toiles et avoir ce côté intemporel, contrairement à des peintures sur mur. Et donc, je me suis éclaté. Au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir des techniques, à choper des techniques à gauche, à droite, à continuer à peindre avec les copains. Et puis voilà, aujourd'hui, je m'éclate vraiment. Et aujourd'hui, je finis dans la galerie Rêve Lucide.
Et justement, tu parles de cet aspect intemporel entre la toile et le mur. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui te font préférer la toile au mur? Est-ce que justement le format toile, qui peut parfois être similaire au format mur, nous, on expose deux formats de 2 mètres sur 2 mètres. Qu'est-ce qui s'en dégage de plus, au-delà du fait de pouvoir l'exposer soit chez le particulier, donner à tous? Parce que dans la rue, une fois que tu crées ton œuvre aussi, tu la donnes au public.
Alors déjà, effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Amiens et de pouvoir peindre à la briqueterie. Je suis venu avec un ami qui s'appelle Emoy, avec qui je peins depuis l'âge de 14 ans. On est en train de réaliser une super fresque, donc je vous invite à passer. Mais en plus de ça, effectivement, je peins sur des toiles. Et la particularité, c'est qu'un mur, on peint dessus, on est debout, on est face au mur. Tandis qu'une toile, on peut peindre face à elle, on peut la poser par terre, on peut y jeter de la peinture, ce qui donnera peut-être des éclaboussures, ce qui donnera quelque chose qui n'est pas faisable à position debout.
Du coup, c'est vraiment le support de prédilection. Enfin, en tout cas, c'est carrément devenu ton support de prédilection.
Ouais, je m'éclate carrément. Ouais.
Au niveau de la production, t'as déjà des idées avant de commencer une toile ou tu te lances comme de l'improvisation sur un mur? Est-ce que t'as des commandes aussi, de particuliers ou autres? Et quand on est passé en atelier aussi, on a vu que tu avais fait sur différents supports, notamment des barils. Qu'est-ce qui génère en fait la création d'une toile ou d'une œuvre ?
Alors oui, effectivement, il m'arrive d'avoir quand même pas mal de commandes. La plupart du temps, en fait, moi j'ai besoin de m'exprimer. Peu importe la manière, j'ai besoin de balancer de la peinture, j'ai besoin de placer mes personnages, de raconter des histoires en une image ou avec des mots, avec des jeux de mots, avec de la couleur. Et effectivement, je peins sur tout ce que je trouverais sympa. Dernièrement, je peins sur des bidons. Donc, c'est quelque chose sur lequel je m'éclate et les gens apprécient parce que c'est une forme d'art qui est posée sur quelque chose de particulier, qui est un bidon, mais qui peut finir dans un salon, ou qui peut finir autour d'une piscine, ou qui peut finir dans un jardin, ou qui peut finir dans une chambre. Et donc, je m'éclate vraiment sur n'importe quel support. Je peux aussi bien peindre sur une chaise que sur une jante, comme lorsqu'on s'est vu chez Porsche. Enfin, avec la galerie Sakura qui a travaillé avec Porsche, je peins vraiment sur tout. Mais ça, c'est quelque chose de déjà connu hein, dans le milieu du graffiti, parce qu'il ne faut pas oublier que juste à l'aide de bombes, eh ben, on peignait sur les métros, on peignait sur des bancs, on peignait n'importe où. Et voilà, c'était ça le truc, quoi.
Et est-ce que tu as fait des métros justement à tes débuts ou même récemment? Alors
maintenant qu'il y a prescription, oui, j'ai fait quelques métros. Après, je n'étais pas un spécialiste du métro parce que moi, ce qui m'importe, c'est de mettre de la couleur, de raconter des choses. Et puis, voilà, quoi. Quand j'étais jeune, on aimait bien un petit peu l'adrénaline. Maintenant, laisse tomber, je suis vieux, tu vois. Maintenant, je raconte des histoires, je me fais kiffer, je vous fais kiffer. Et puis, j'aspire à vous faire réfléchir aussi.
Et justement, tu kiffes pour justement donner aux autres. Tu as aussi créé l'association Macadam. En 2013. Est-ce que tu peux nous parler de ton association ?
Alors oui, Macadam, c'est une association que j'ai créée à ma sortie de prison. C'est une association qui a deux objectifs. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Et le deuxième, c'est d'essayer d'amener la culture là où elle est difficile d'accès. Pour ce faire, j'ai fait des partenariats, notamment avec le premier, c'est comme je suis un fouteur de merde, je voulais que ce soit le ministère de la Justice. Et donc aujourd'hui, j'interviens dans les prisons, dans les foyers, mais aussi dans les écoles, dans les quartiers, toujours auprès des jeunes et des moins jeunes, histoire de leur dire voilà, que tout est possible. Et je leur apprends surtout un nouveau moyen de communication par le biais de la BD.
Ces ateliers, c'est la création autour de la BD, du graffiti, ouais. C'est quoi
Alors en ce qui me concerne, moi, en tant qu'auteur de BD, j'arrive par exemple dans une prison avec une dizaine de détenus et je leur apprends donc un nouveau moyen de communication par le biais de la BD, en leur expliquant que la BD c'est du dessin, mais ce n'est pas que du dessin, la BD c'est avant tout de l'écriture, et avant même d'écrire c'est de la réflexion, c'est raconter une histoire. Et ce que je leur dis, c'est que tout le monde est capable de raconter une histoire, parce que je tombe souvent sur des personnes qui me disent c'est génial, on va faire de la BD, sauf qu'il y a un problème, c'est que je ne sais pas dessiner. Et je leur dis, pas de problème, tu ne sais pas dessiner, par contre tu sais réfléchir, et surtout tu es riche. Tu es riche, pourquoi ? Parce que tu as une histoire, tu viens de quelque part. Et parfois, même quand on croit ne pas avoir d'histoire, il suffit d'aller chercher dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans son enfance parfois même, et bon, on y retrouve des choses. Et ce que je leur demande souvent, c'est de me raconter quelque chose qui les a marqués. Et on a tous quelque chose qui nous a marqués, en bien ou en mal. Même vous, autour de cette table, si je vous pose la question « qu'est-ce qui vous a marqué ?», une petite réflexion, et vous êtes capable de parler de plein de choses, de d'où vous venez, vous êtes capable de parler de l'odeur de quand vous étiez petit, quand votre maman est à la cuisine. Vous êtes capable de me parler de l'amour que vous portez à votre chien, de vos dernières vacances, ou des vacances où vous n'avez jamais été. Vous êtes capable de me parler de votre chéri, ou du chéri que vous n'avez jamais eu. En tout cas, vous êtes capable de parler de plein de choses et d'y ramener des émotions. Via mon association, j'aspire à entrer dans la tête des jeunes qui pensent ne pas être capables, alors qu'ils le sont. Et c'est ce que je dis toujours, on croit ne pas être capable. Moi le premier, je pensais ne pas être capable d'être artiste, ne pas être capable de pouvoir faire telle ou telle chose. Je pensais que voilà, j'allais grandir, vivre et mourir dans mon quartier. Alors qu'en fait, le monde est vaste. Il faut savoir en sortir, il faut savoir aller chercher au fond de soi ce qu'on a, parce qu'en fait on a tout un monde à l'intérieur de nous-mêmes, et donc quand on découvre deux, trois petites choses, il faut développer, il faut bosser, quoi.
Ouais, est-ce que toi aussi, du coup, tu t'inspires de ton expérience quand tu crées quelque chose, un motif, ou de justement l'aventure que tu disais que tu vis, Est-ce que c'est ça qui t'insuffle?
Ah, mais carrément, moi, dans mes œuvres, je passe par plusieurs choses. Même si c'est un tableau, eh bien, je m'inspire déjà de mon personnage, de mon avatar, donc de moi. Je m'inspire de peut-être de ce qui se passe en ce moment dans la société. Mais je peux aussi m'inspirer avec les mots. Parce que, comme je le dis, je viens de cette culture hip-hop où le mot est important, le rap, etc. Et du coup, j'adore les jeux de mots. Et des fois, je sors des punchlines. La punchline qui sera peut-être en rapport avec ce que je viens de dessiner ou, encore une fois, avec des faits de société.
Et du coup, cet avatar, tu le dessines avec parfois un masque. On le retrouve aussi avec des lunettes que tu portes aussi aujourd'hui.
Une auréole.
Oui, auréole, une cape. Est-ce que c'est en fonction de l'aventure? Est-ce que tu lui crées une narration en fonction de comment tu l'habilles ou est-ce que ça dépend vraiment du moment ou quand tu te sens
Je pense que ça dépend surtout du mood dans lequel je suis. Et puis effectivement, en fait, je rajoute des éléments comme ça, que ce soit une cape, un masque ou une auréole. Mais en vérité, tous ces personnages-là, c'est moi, en fait. Parce que ce personnage-là, on pourra le lire dans mes BD, il est complètement fou, il est complètement marrant, il est complètement teubé, il est complètement... voilà. Et donc, selon les circonstances, eh bien, je lui mets quelque chose. Quand il a envie de bien s'exprimer, d'être le mec qui a envie de bien parler, d'être le super-héros du bordel, eh bien, il aura son casque, plutôt son masque et sa cape. Et puis, en vérité, c'est un petit bleuzard, en vérité, ce mec-là. Tu vois, c'est un petit chétan, c'est un petit mec qui sert à rien, mais en même temps qui a du cœur et puis qui est sympa. Et donc je lui mets son auréole pour rappeler tout ça.
Est-ce que du coup, aux sorties de la BD ou même encore aujourd'hui, tu as des réactions sur ton personnage? Qu'est-ce que le public te dit en fonction de comment ils perçoivent
Alors oui, j'ai beaucoup de réactions plutôt sympas d'ailleurs. Et puis l'une des réactions qui m'a marqué, ça a été c'est cool parce que enfin un personnage qui ramène un petit peu de diversité. Tu vois, un personnage noir, un super-héros noir, il y en a pas tant que ça. Donc évidemment, il y a le phénomène Black Panthers, etc. Mais on n'est pas des Américains, nous. Du coup, surtout, c'est un personnage qui nous ressemble à tous. Ok, il est noir. Par contre, dans ses conneries, je crois qu'on est tous un peu cons, on est tous un peu marrants, on est tous un peu... voilà. Et donc, ce personnage-là, je fais en sorte qu'il nous ressemble à tous.
Là, ça fait plus de 15 ans que tu l'as créé. Est-ce que tu le vois évoluer différemment? Est-ce que tu lui crées une évolution ou il va rester comme ça encore pendant longtemps? C'est stable et ça te convient?
Alors toi, t'es maligne parce que je ne sais pas si c'est là où tu veux m'emmener, mais oui, en tout cas, je lui vois une évolution, mais plutôt une évolution dans le sens, il va passer de la BD, peut-être un jour un dessin animé, peut-être un jour, je ne sais pas, en tout cas, voilà.
Il va prendre vie différemment,
voilà,
toujours de ta main, mais sous un autre format.
C'est ça, exactement.
Ok. Pour continuer sur ta carrière, tu as rejoint l'agence Starting Block, du coup tu disais l'agence de Booba. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être encadré par des équipes au niveau de l'opportunité? Donc tu disais de pouvoir travailler sur d'autres formats comme films et autres, publier peut-être d'autres ouvrages. Mais ça, je pense que tu peux le faire aussi en solo. Ça peut-être accélère le mouvement et ça te donne plus d'opportunités. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette agence et les artistes qui la composent aussi?
Alors effectivement, c'est les opportunités que ça peut me procurer. Ça peut vraiment faire avancer la chose beaucoup plus vite. Et puis surtout, ça me met dans un cadre. Je travaille avec des professionnels aujourd'hui de la communication, avec des personnes qui peuvent m'emmener très très, en tout cas beaucoup plus loin que je pourrais aller tout seul. Et puis voilà, je travaille dans un cadre hyper sympa, avec des gens cool. On est en équipe, quoi.
T'as un atelier aussi du côté de Roissy, actuellement. Il est très grand, t'as de la place. Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir te rendre dans un lieu comme ça, consacré à ton travail? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais bien agrandir, travailler avec d'autres artistes dans le même lieu? Ou tu restes solitaire dans tes créations?
Alors j'aime bien rester solitaire. Il m'arrive évidemment d'inviter des artistes pour des collaborations sur une œuvre. Mais j'avoue que j'aime bien ce côté solo où je peux mettre ma musique à fond, je peux foutre de la peinture partout, je peux vraiment salir et me salir. Et puis chercher des nouvelles techniques. Et j'avoue que quand on est seul, c'est plutôt sympa. J'ai en même temps, je pense avoir toujours été un mec solitaire, tu vois. Et parfois, même quand je suis entouré de beaucoup de personnes, ben, je suis tout seul dans ma bulle. Et donc, dans mes moments de création, j'ai vraiment besoin de calme. Et surtout, ça me permet de pouvoir, par exemple, mettre de l'opéra ou de la musique classique à fond et de pouvoir dessiner. Parce que des fois, je suis avec les copains, je mets de l'opéra, ils me disent « Vas-y, arrête tes bêtises, là !»
Ça t'inspire plus en fonction de la musique que tu mets ? Ou c'est juste le mood du moment ?
Moi, je dirais que ça m'inspire vachement, la musique. Honnêtement, je pense que j'ai vraiment besoin de musique pour pouvoir dessiner. D'ailleurs, c'est la première chose que je demande quand je vais quelque part et que je dessine. Est-ce qu'il y a de la musique ? Est-ce que je peux brancher ? Et s'il n'y a pas, ben, j'ai mes écouteurs.
Ça fait comme un... Ça occupe ta pensée, en fait. Ça, c'était peut-être plus naturel, tu réfléchis moins ou tu es plus dans l'instinct ?
Alors, j'y ai jamais réfléchi. Peut-être que je suis plus dans l'instinct, effectivement, parce que je suis beaucoup dans l'improvisation dans ce qui concerne mes dessins. Et là, je suis en train de faire une peinture. Je suis arrivé sans projet, quoi. Et donc, la musique me met dans un mood qui fait que je rentre dans une bulle et je balance les choses, ouais.
Et qu'est-ce que tu écoutes donc de l'opéra et entre autres styles de musique ?
Alors moi j'écoute tout style de musique, hein, aussi bien l'opéra, la musique africaine, la funk, le rap, le rock. J'écoute tout en fait.
Je reviens sur ton association Macadam et j'ai lu mais j'ai pas trouvé d'autres sources. Travailler aussi en Afrique, du coup est-ce que c'est la même portée que les actions que tu fais en France ? Ou c'est sur quel domaine ?
Alors, c'est différentes choses. En fait, en Afrique, il faut savoir qu'il y a énormément, énormément de jeunes. L'Afrique est jeune, l'Afrique est vaste. Et donc, j'aspire à travailler avec les jeunes de là-bas. Et pourquoi pas faire des ponts avec les jeunes d'ici. Des jeunes parfois issus de quartiers difficiles ou issus de zones rurales. Des jeunes qui parfois... en Europe, ne se rendent plus compte à quel point ils ont de la chance, en fait. Et donc, des fois, une simple rencontre fait que les différents mondes se croisent et s'apprécient et discutent. Et pour moi, ce qui est important, c'est justement c'est ces rencontres. Parce que quand on ne connaît pas l'autre, on en a peur. Et quand on a peur, et ben, ça crée ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Des guerres, des folies, etc.
Et justement, sur ces rencontres que toi, tu as pu faire depuis ton jeune âge, c'est lesquelles les plus importantes, en tout cas aujourd'hui ? Lesquelles t'ont marqué le plus entre les potes qui ont pu t'accompagner ou même des personnes que tu as pu rencontrer qui t'ont donné une opportunité ? Ou même la famille, tout simplement, les parents, j'imagine ?
Alors, les rencontres qui m'ont marqué le plus, en vérité, je les fais tous les jours, en fait. Hein. Le truc, c'est que bien sûr, j'ai rencontré des personnalités, j'ai rencontré des gens géniaux et parfois des gens très cons. Mais surtout, ce qui m'enrichit, c'est quand je vais dans une prison, j'arrive face à une dizaine de jeunes qui me regardent en se disant « Putain, t'as trop de la chance, t'as réussi à faire ça alors que t'étais à notre place à un moment donné. » Alors moi, je leur réponds que j'ai pas de chance, en fait. Je me suis mis au travail et que j'ai cherché au fond de moi en fait comment je pouvais me valoriser. Et j'ai trouvé qu'avec grâce au dessin, etc. Et du coup, vous aussi, vous avez ce truc, vous avez cette lumière en vous. Donc, allez chercher au fond de vous quel est votre truc. Parce que j'aime bien dire que le bon Dieu nous a tous donné quelque chose. On a un don et il faut savoir quel est ton don en fait. Et des fois, on a un don visible, des fois, on a un don invisible. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver quel est ton don à toi. Et donc voilà, ces rencontres-là, je les retrouve, mes plus belles rencontres, elles sont face au gars, jeune ou pas, qui me dira « moi c'est mort, j'ai rien du tout ». Et après discussion, ils vont me dire « mais t'as raison, mais c'est un truc de fou, ah oui, moi je sais faire ça, attends, je vais essayer d'eux ». Donc voilà, pour moi c'est ça les plus belles rencontres.
Okay. Et comment donc toi, t'as vécu cette expérience et que tu l'offres aussi à d'autres personnes, en tout cas de se rendre compte qu'ils ont du potentiel. Comment tu l'as vécu en sortant de prison, le fait d'avoir gagné un prix, et comment t'as vécu le changement brutal de tu dessines pour toi et d'un coup tes planches sont exposées en galerie et t'es appelé par les commissaires priseurs, ça se vend et autres. Vu que c'était pas ton rêve, comment ça t'est tombé dessus, comment t'as réagi ?
Alors ça m'est tombé dessus dans la mesure où effectivement en prison je me mets à dessiner, on me propose de participer à des concours, je participe à ces concours, je gagne très souvent ces concours, Ben, à vrai dire, tous les concours auxquels j'ai participé, je les ai gagnés. Et puis un jour, on me dit, non, mais il faut absolument que tu participes au Festival d'Angoulême. Et donc, on me propose de participer à un concours qui s'appelle Transmuraille. On était en 2009. Au départ, comme un petit gars de quartier, pas sûr de lui, je refuse. Mais je refuse pourquoi? Non pas parce que j'ai pas envie, tout simplement parce que je ne me pensais pas capable de gagner. Et donc, j'ai sorti un truc, ça m'intéresse pas, vos trucs de bouffon. Le dessin, je fais ça juste pour m'amuser, moi. Ils ont insisté, insisté. Quand je dis ils ont, c'est tout d'abord le personnel pénitentiaire.
C'est ce que j'allais te
Mais
demander.
ensuite, mes copains en prison me disent, mais Berthe, t'es ouf, tu dessines trop bien, mais vas-y, tu devrais y participer. Et à un moment donné, et les profs aussi, et à un moment donné, je me dis, mais mince, en fait, différentes personnes venant de différents mondes me disent tous la même chose. Allez, je vais quand même essayer. J'ai essayé, il s'avère que j'ai gagné. Et de là, en fait, je me suis rendu compte que mince, en fait, c'est vrai, je suis un artiste. Et donc, j'ai commencé à écrire une BD en prison et j'ai commencé à y croire, quoi. Et c'est à ma sortie, effectivement, tout de suite, tout s'est enchaîné. Et je me suis dit, il faut que je m'organise. Et moi qui avais grandi dans cette culture hip-hop, avec un frangin qui était manager de deux groupes de rap très connus, et donc je savais comment fonctionnait le business. Et je me suis dit, ben, je suis un petit dessinateur, mais je vais faire comme si j'étais un bête de gros dessinateur. Et donc moi aussi, je vais m'entourer avec manager, avocat, etc., etc. Et puis voilà, en fait, au début, j'y suis allé au bluff, quoi.
Et est-ce que tu as des regrets sur certains projets ou certains choix artistiques ou même professionnels?
Alors, je pense que j'ai pas trop de regrets. Chaque chose en son temps. J'ai conscience d'une chose, c'est que j'ai peut-être un âge avancé, mais en ce qui concerne l'artistique, eh bien, je suis tout jeune. Et donc, chaque chose en son temps. Je suis pas pressé. Les choses se feront. Et surtout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment. Même si je ne crois pas trop à la chance, mais disons que en ce moment, je suis hyper bien accompagné avec Starting Block. Et donc, je sais que j'ai des rêves, ils ont des rêves, on a des possibilités, et surtout, ils ont les moyens techniques de m'emmener vers mes rêves.
Et ce serait quoi aujourd'hui ta priorité ou un chemin que tu voudrais emprunter
Alors aujourd'hui, ce serait ben, de développer mes activités encore et toujours, tu vois. J'aime bien le cinéma. Quand je parle de cinéma, que ce soit film, prise réelle ou dessin animé, évidemment j'aime la BD, mais surtout je regarde en direction du continent africain. Alors en fait, effectivement, je vais en parler sans trop en parler, parce qu'en fait, disons que dernièrement j'ai été sollicité par le groupe Dupuis. Donc, qui font les dessins animés qu'on connaît, ou les films qu'on connaît, ou pardon, les BD qu'on connaît, comme Gaston Lagaffe, Les Schtroumpfs, etc. Et ils ont des projets, notamment d'essayer d'emmener la lecture de la BD en Afrique. Par contre, ils ont trouvé un truc génial, c'est de travailler avec des dessinateurs d'origine africaine, faire des BD africaines pour les Africains. Et bien sûr, on pourra les avoir aussi en Europe. Et donc, on m'a sollicité par rapport à ça et on m'a posé une question. Est-ce que toi, tu serais capable, en fait, parce que tu es français, tu vois? Et donc, j'ai souri, je leur ai dit, ouais, je suis français, mais je suis aussi originaire du Congo. Et chez moi, dans ma culture, il y a ce qu'on appelle la sapologie, trois petits points.
On a dit que tu étais exposé dans plusieurs galeries, mais on n'a pas cité les galeries.
Alors, dernièrement, j'ai eu l'occasion d'entrer dans une galerie prestigieuse qui s'appelle la galerie Pereya. Et donc, aujourd'hui, je suis représenté par une galerie. C'était quelque chose que je voulais et j'ai cette chance donc de faire partie de ces artistes qui sont représentés par cette galerie.
Et dans cette galerie, est-ce que tu as les artistes dont tu connaissais déjà l'existence quand tu étais tout petit, que tu pouvais idolâtrer ou...
Alors oui, en effet, ben alors idolâtrer c'est un grand mot, mais en tout cas effectivement,
Admirer.
il y a des grands noms du graffiti qui sont dans cette galerie, comme par exemple John Wan, comme The Noi, comme Jody Bona et tant d'autres. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis avec eux, je travaille dans cette galerie, c'est vraiment cool.
Et d'ailleurs, on a pu suivre. Bah, cet événement de ta vie, puisque tu l'as raconté sur les réseaux sociaux avec des moments de vie en BD et c'est intéressant du coup de pouvoir te suivre aussi via ton personnage tout le temps, via ces petites parenthèses. Voilà, bah, c'est super. Félicitations en tout cas. On te souhaite de réussir encore plus et d'aller plus haut, toujours plus haut. Merci beaucoup Berthé, en tout cas pour le temps que tu nous as consacré.
Merci à vous.
Et puis pour l'exposition, Rêve Lucide, c'est une association qui est assez jeune aussi. Notre projet aussi, c'est de sensibiliser au street art, au graffiti et à toute forme de pratique artistique plus largement. Et c'était vraiment une bonne opportunité pour nous de pouvoir te présenter à la galerie. Et aussi, actuellement, il y a le rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui a lieu. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir présenter ton travail en parallèle de l'événement.
Eh ben, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité dans la galerie. Je vous remercie pour cette émission, cette belle émission. Et puis, je vous invite à passer à la galerie Rêve Lucide parce que j'y suis. Et puis, il y a des BD à vendre à la galerie. Et puis surtout, venez visiter mon monde.
Merci beaucoup, Berthé. Vous pouvez suivre Berthé sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, Berthé1. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois pour notre prochain épisode. L'exposition a lieu du 6 juin au 28 juillet 2024. N'hésitez pas à passer. À bientôt.
20 000 lieux sous les
murs.